C'est porté volontaire. Regardez, j'ai un bras plus long que l'autre, puis il est croche. Il est tordu. Non, mais dans l'Église, dans le corps de Christ, souvent, on a des appels. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas faire, qu'on essaie de se cacher, de dire « Non, pas moi, je suis pas capable. » Mais le Seigneur, je ne sais pas, c'est la volonté de Dieu, je suppose. Il nous accroche à quelque part, puis il nous emmène, puis hop, on est rendu là. Parce que c'est pas évident pour moi, je dis tout le temps, je le dis à mon épouse, c'est pas mon don. Mais là, il semble qu'il veut toujours que je sois ici. Donc, je suis ici par sa grâce à lui, pas par mes propres forces. J'arrête pas de prier, le cœur me tremble, les mal au cœur, etc. Puis pourtant, il y a des gens, je connais des gens qui ont une facilité. Le Seigneur les a équipés. Pour eux, c'est toujours... Je dis pas que c'est pas une joie, c'est pas un plaisir que je sois ici. Là, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais il y en a qui... C'est le don, puis ça coule, ils aiment ça, puis c'est pas facile pour eux non plus, mais ils ont eu ce don-là, puis ils le mettent en application, puis c'est merveilleux. Puis je regardais mon pasteur, je regardais David la semaine passée, là, il était ici, là. David, notre jeune pasteur, là, je le regardais là, puis j'ai regardé les pieds. Avez-vous déjà vu les pieds à David, ses souliers? Bon, je me disais, là, dimanche prochain, c'est moi qui vais dans ces souliers-là. Puis, il fait ça avec tellement d'aisance, puis je me disais, ben, c'est moi qui vais être là. J'espère, vous savez, ce verset-là, je peux tout par celui qui me fortifie. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit cette semaine. Et aussi, ce matin, je me disais, je suis ici. Puis en plus, je suis ici, puis quand j'ai préparé les messages, j'en avais deux. J'avais deux messages. Je me disais, j'aurais dû prendre l'autre. C'est bête, hein? Assis ici, puis j'aurais dû prendre l'autre. Parce que celle-là, vous allez peut-être le trouver un petit peu difficile. Moi, il me parle, il m'a parlé. Il vient me chercher. Je vais vous le dire, là, c'est à moi que je parle ce matin. Vous autres, vous êtes tous parfaits, OK? Il y a juste moi ici ce matin là dans l'église locale, dans l'église de Christ, qui est imparfait. Ça va pour ça? OK, parce qu'il s'appelle, c'est les bienfaits de la soumission. les bienfaits de la soumission dans la vie chrétienne. On va regarder des personnages, puis on va en prendre deux ce matin. Puis dans mon introduction, ben j'ai quatre versets bibliques. C'est dans mon introduction. 1 Corinthiens 15, 27. Allez pas, là, parce que je vais vous les citer. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Hébreux 2, 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Colossiens 4, 12, et Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous enseigne clairement que la clé du succès et la victoire dans notre marche chrétienne passe par la soumission sans condition à Dieu. Le texte qu'on va voir ce matin nous montre que parfois, quelquefois, nous pouvons avoir peur de la soumission. Parce que soumis, tout de suite dans nos têtes, soumis, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Soumis, c'est perdre sa liberté, c'est quelque chose qui nous est enlevé. On a peur de ça, on a peur de ce mot-là, soumission. Mais si nous arrivons à vaincre cette peur vis-à-vis Dieu, nous trouverons les bienfaits de la soumission. J'en suis convaincu. Mais il y a une chose. Comment arriver à vaincre cette peur? Puis on va faire ressortir du texte qu'on a voir ce matin deux grands principes à ça pour vaincre cette peur, pour être béni de Dieu. Premièrement, ça va être les choix de la vie. Puis deuxièmement, ça va être les leçons de la soumission sans condition. On va prendre notre Bible, on va regarder dans 2 Rois 7. On va regarder des personnages, puis on va voir que par ces personnages-là, ça peut nous toucher aussi, puis on peut apprendre d'autres. On peut apprendre deux. Deux rois, 7, 1 à 9. Vous êtes rendu? On va prier. Seigneur notre Dieu, s'approche de toi à cet instant. Encore une fois, je reconnais ma dépendance de toi. Seigneur, tu es le grand Dieu, tu es le maître de l'univers. Tu es celui, comme on a entendu ce matin encore, qui a pas hésité, Seigneur notre Dieu, à venir vers une créature pécheresse, rebelle, à donner son propre fils pour en rançon pour nos péchés, pour nous sauver. Seigneur, tu nous as sauvés parce que tu as préparé des œuvres d'avance pour nous, pour chacun d'entre nous. Et mon désir, Seigneur, ce matin, c'est qu'on puisse être alerte à ton Esprit Saint, qu'on puisse être alerte à ta parole, afin que nous regardions ces œuvres et que nous puissions les mettre en application dans nos vies et dans ton Église, pour toi, pour ta gloire, au nom de Christ. Amen. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule, puis se rendirent au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Hittiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » L'histoire qu'on vient de lire se passe il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Après David et Salomon, bien, le pays s'est divisé. On sait tous au sud le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Puis au nord, c'est le royaume d'Israël, dont la capitale est la Samarie. Puis en ce temps-là, Joram, roi d'Israël, il est en guerre contre la Syrie. Regardez dans Deux Rois, juste à côté, Deux Rois 6, versets 24 et 25. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, avait rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans la Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'homme valait 80 sicles d'argent et le corps d'un câble de fiande, de pigeon, 5 sicles d'argent. Il l'avait tellement serré, il l'avait tellement... comment on dit ça, non? Encerclé, serré. Les gens en dedans, là, ils étaient plus capables de rien faire. Il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait rien. La ville était assiégée au complet. Puis la famine était dans la ville, la population était en train de mourir de faim. Cette stratégie-là, elle avait bien réussi. Imaginez-vous, là, une tête d'onde coûtait 80 cycles d'argent. Qu'on dit, quand on fait des recherches, ben, je sais pas si c'est exact, là. Ben, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est une année de travail. En plus, une tête d'âne, c'est un animal impur. Il était prêt à payer une année de travail pour manger un animal impur. Puis le corps de fiente de pigeon, il valait 5 cycles. 5 cycles. Puis on dit que... je regardais, c'est quoi des fientes de pigeon? Puis on dit que c'est des excréments qu'ils prenaient pour comme combustible. Je sais pas trop qu'ils faisaient avec ça. Moi, j'ai des colombes, je regardais, puis je sais pas trop comment j'aurais pu faire ça, faire du combustible avec ça, là. Mais c'est ça qu'ils faisaient. Mais ça peut être aussi des pois chiches, là, une sorte de je sais pas, là, d'ingrédients, là, qui fait des sortes de plantes qui fait des pois chiches. Vous savez, regardez le verset 26-28, puis on va comprendre pourquoi il était prêt à manger même des animaux impurs, même des animaux impurs. Et comme le roi passait sous la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, « Donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. » Il avait tellement faim qu'il faisait, mais il était prêt à tout donner, à tout faire, puis il faisait même du cannibalisme, il mangeait même leurs propres enfants. Puis là, il arrive quelque chose au chapitre 7 de ce qu'on a lu. Chapitre verset 1, c'est le prophète Élisée qui annonce qu'en un seul jour, c'est-à-dire demain, la situation, elle, telle qu'elle est, elle va changer, puis qu'il va y avoir de la nourriture en abondance pour tout le peuple. Demain, en un seul jour, la situation va changer, puis il va y avoir de la nourriture pour tout le monde, sans anxiété. Verset 2, l'officier, on l'a vu, l'officier du roi, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque d'Élisée. Il se moque de lui. Et pendant ce temps, c'est là qu'on arrive dans l'histoire, et pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, il y a 4 lépreux. Il y a 4 lépreux qui étaient là, eux autres. Entre le marteau puis l'enclume. Je sais pas si vous avez déjà fait du fer, là. Moi, c'est mon métier, faire du fer, le marteau puis l'enclume, là. Mettez-vous pas vos doigts là, parce que ça serre assez raide, là. Puis là, eux, ils étaient là. Et comme tout le monde, ces lépreux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans la situation dans laquelle ils étaient, ils mouraient de faim. Ils étaient comme les autres. Puis il n'y a pas personne qui se souciait d'eux. Qui pouvait se soucier d'eux? T'as qui des lépreux, à point de compte? C'était des gens dans rien. C'était des gens qui étaient reconnus lépreux par le sacrificateur. Puis quand ils étaient reconnus lépreux par le sacrificateur, bien, ils devaient se promener avec des vêtements déchirés, puis avertir les gens. Et ça, quand ils passaient, puis il y avait du monde, puis ils criaient « impur, impur, impur ». C'était des gens, on voit dans les films, des fois, on voit ça dans les films d'horreur. Moi, je ne suis pas adepte, là, mais je l'ai déjà vu quand j'étais plus jeune. Et c'est des morts vivants. C'est comme des morts vivants, ces gens-là. Puis, c'est par leur histoire qu'on va apprendre que les secrets de la soumission, c'est bon. Vous savez, la soumission peut vouloir dire aussi, je vais regarder dans le dictionnaire, disposer à obéir. Disposer à obéir. Puis, on va voir 2 grands principes, comme j'ai dit tantôt, puis le grand principe pour être béni par Dieu, c'est les choix de la vie. C'était une situation difficile pour eux, pour ces 4 lépreux. Non seulement ils souffraient d'un terrible maladie de peau, mais en plus, ils étaient en train de mourir de faim. Malades, mourants, désespérés. Puis, semblait-il, aucune solution dans leur problème. Si on regarde la situation, pour ces gens-là, il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils sont au centre d'une situation insoutenable. Vous savez, nous pouvons aussi nous trouver dans des situations insoutenables. Dans une situation qu'on trouve terrible. Nous sommes peut-être confrontés à une grave maladie. On peut aussi surmonter une crise. Peut-être quelque chose dans notre mariage, avec nos enfants, au travail. Et souvent, on est étouffé par nos émotions face à toutes ces circonstances-là. On devient comme une personne qui est en train de se noyer. Puis là, on n'a plus d'appui, puis on est sans espoir. Peut-être aussi que c'est, on dit tout simplement, mais c'est grave aussi, peut-être qu'on est en train de vivre une situation financière, ou bien une dépendance dans notre vie. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous, comme moi, peut-être, j'ai une dépendance dans ma vie. Je ne les nommerai pas les dépendances, vous les connaissez, il peut y en avoir plusieurs dépendances. Si on est dans une situation désespérée, vous savez une chose, on peut apprendre de ces lépreux. On peut apprendre une belle leçon de ces lépreux. Les choix que nous allons faire vont décider de notre avenir. Les choix que nous allons faire vont décider de notre avenir. Moi, j'y crois. Moi, je crois à ça. J'ai lu quelques citations de... Vous connaissez William Bryan? William Bryan a dit « Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. » La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver? » au lieu de se demander « Que puis-je faire? » Un autre a dit, celui-là, vous le connaissez très bien, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Vous savez qui a dit ça? On le sait, hein? John F. Kennedy. La vie est faite de choix. Bien entendu, je vous apprends rien. Les bons choix que nous ferons auront des conséquences positives. Puis les mauvais choix que l'on va faire, bien, ça va être des conséquences négatives. Il y a trois choix que nous pouvons faire. Il y a trois choix que ces gens-là pouvaient faire aussi, les lépreux, puis nous allons voir à partir de quels choix qu'ils ont pu faire. Premièrement, nous pouvons choisir de reculer, rétrograder et nous mourrons. Regardez le verset 4. Il a dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Ils sont mis à réfléchir. Si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Oublions pas, là. Il y avait la famine, ces lépreux souffraient de malnutrition, puis ils étaient en train de mourir de faim. La première idée qu'ils ont eue, c'est revenons dans la ville. Revenons dans la ville. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient été bien accueillis s'ils seraient revenus dans la ville? Moi, je pense pas. Déjà, il y avait toute cette turbulence dans la ville, tout cet effroi de mourir de faim. Mais je pense pas qu'ils auraient été accueillis. C'est la même chose pour nous, là. Une personne peut souffrir de famine spirituelle. Dieu nous dit que nous devrions grandir spirituellement. Pourquoi? Pour devenir semblable à Christ. Mais au lieu d'avancer, peut-être que nous sommes en train de reculer. J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. J'ai réfléchi là-dessus. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'à un certain moment de ma vie, j'étais plus engagé à servir Christ qu'aujourd'hui? Est-ce qu'à un certain moment de ma vie, j'étais plus engagé à servir Christ qu'aujourd'hui? Si c'est à oui, si ma réponse est oui, je suis en train de rétrograder. Je recule, je descends. Peut-être sans le savoir, on a choisi aussi. Sans le savoir, nous avons choisi de reculer spirituellement. Sans le savoir. Comment ça se peut, ça? Mais ça se peut. Ça vient à court terme, ça vient tranquillement. Puis sans le savoir, qu'est-ce qui arrive, je suis en train de reculer. Vous savez, il y avait mon vieux papa spirituel que j'avais, il y a 25 ans, il comparait la marche chrétienne comme une côte, là, avec notre auto. Là. Il y a une côte bien à pic, puis il nous disait, vous êtes dans une voiture, Serge, tu es dans une voiture. Une voiture avec juste une pédale à gaz qui n'a pas de frein. Dans ta marche chrétienne, dans notre marche chrétienne, dans votre marche chrétienne, si tu ne pèses pas sur le gaz, tu ne monteras pas. Si tu ne pèses pas sur le gaz, tu ne resteras pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reculer. Tu vas reculer, c'est automatique. Dans la marche chrétienne, il n'y a pas de stop. Soit que tu montes ou soit que tu recules. Savez-vous quand ça arrive, ça? Ça arrive quand on arrête de prier. Quand on arrête de prier régulièrement. Quand on arrête de lire notre Bible. Peut-être que aussi tranquillement, avec le nombre d'années, on est retombé dans des mauvaises habitudes que nous avions abandonnées. Mais tranquillement, on est retombé dans ces habitudes-là. Certains anciens péchés aussi, peut-être, qui ont pris le dessus. Ça, c'est des signes certains que l'on souffre de déclin spirituel. On appelle ça rétrogradé. Notre foi, qui était forte, qui était vivante, s'est-elle refroidie aujourd'hui? Au point d'en venir à avoir, de mourir de faim? Une faim spirituelle? Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire d'une tribu dans le jungle qui avait découvert un jour un ancien cadran solaire. Ils ont pensé, eux, que c'est beau un cadran solaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ils ont pensé, eux, que c'était un porte-bonheur. Et ils ont pensé aussi que ça pouvait porter chance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui faire honneur? Ils ont construit une hutte par-dessus, pour le protéger. En voulant l'honorer, ce cadran solaire, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ben, ils l'ont rendu inutile. Il était rendu inutile. C'était plus qu'un fétiche, une breloque, puis ça n'avait plus aucune valeur pratique. Vous savez, voilà comment beaucoup de personnes aujourd'hui voient le christianisme dans nos églises. Vous savez quoi? Pour ça, je me suis dit un matin, j'aurais dû changer. Mais je vous le dis, c'est pour moi. Mais dans nos églises, remarquez, regardez ce qui arrive dans nos églises, puis vous allez voir que je ne suis pas tellement à côté de la coche. C'est devenu une habitude. Il y a une habitude peut-être qu'on a pris, c'est qu'une fois par semaine, le dimanche pour 2 heures, on sort Jésus du garde-robe. En nous, on n'y a pas fait une hutte. On n'a pas mis une hutte par-dessus. Mais on l'a placé dans le garde-robe, puis on le sort pour 2 heures par semaine. Et on lui permet de nous accompagner au culte, de venir avec nous. Puis quand on arrive à la maison, bon, on le remet dans sa hutte jusqu'à la semaine prochaine. Mes frères et mes sœurs, c'est ça notre foi. On regarde en arrière. On est en train de reculer. On est en train de subir une famine spirituelle. On souffre de malnutrition. Puis verset 4, c'était le premier choix qu'ils avaient regardé. Retournons, c'est-à-dire retourner là où il était autrefois. C'était pas le bon choix. C'était pas le bon choix, puis vous savez quoi? Pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, qui voulons honorer Dieu, c'est pas le bon choix non plus de retourner dans le monde. De retourner là où le Seigneur nous a pris. C'est un choix avec des conséquences négatives. Deuxièmement, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir de bouger, c'est-à-dire on peut choisir de ne pas bouger. Les lépreux, le deuxième choix, c'était de ne pas bouger, de ne rien faire, puis qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. C'est la mort. Et on dit au verset 4, « Et si nous restons ici, nous mourrons également. » Ils ont même pensé à l'option de rien faire. Puis vous le savez, je le sais souvent, je l'ai vécu quand on est confronté à des crises, là. Et le désespoir nous guette, le désespoir s'empare de nous. Puis c'est facile de se laisser aller. C'est très, très, très facile de se laisser aller puis dire, à quoi bon? À quoi bon continuer? Ça fait mal, la crise dans laquelle je suis présentement, ça fait mal, à quoi bon continuer? Puis là, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on veut abandonner et on abandonne. On est comme un petit animal blessé. On a envie de se recorquiller puis de rester là, puis peu importe ce qui nous arrive, on bouge pas, on abandonne. Mais au verset 3, les lépreux se sont posé une question qu'on devrait tous se poser. Quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Resterions-nous ici jusqu'à nous mourions, semaine après semaine, toujours la même chose, toujours le même rituel, sans aucun désir de bouger, de faire quelque chose pour le Seigneur, est-ce qu'on va rester ici et on va mourir? Ou bien prier pour avoir le désir, que le désir nous regagne de bouger? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai ce désir-là de bouger. Souvent, j'ai des gens, ah, à mon âge, mais j'ai le désir au plus profond de mon cœur de bouger. Vous êtes probablement en bonne santé, plein de forme. J'espère que vous avez ce désir-là de bouger. J'espère que tout le monde ici bouge et que s'il y en a qui ne bougent pas, eh bien, que vous allez trouver ce matin le désir de bouger, de faire quelque chose dans l'œuvre du Seigneur. Un pasteur, un jour, il a vu son fils, c'était un bon athlète, un gars en pleine forme. Il était devant une émission de télévision. Puis savez-vous ce qu'il était en train de regarder? C'était une émission sur la cuisine. Puis son père il a dit, pourquoi tu regardes cette émission-là? Savez-vous ce qu'il a répondu? C'est le seul que je peux voir. Hein, mais comment ça? Ben, il dit, la télécommande est brisée. Mais il dit, savais-tu, mon fils, que dans notre temps, on se levait pour aller changer de poste? Puis il a dit, tu peux faire pareil. Mais il semble que lui, il savait pas ce qu'il avait oublié ça. Ou peut-être qu'il était assis là à regarder ce programme, puis peut-être qu'il était trop paresseux pour bouger. Trop paresseux pour se lever et aller peser sous le piton. Est-ce que notre vie spirituelle est devenue monotone? Est-ce qu'on est toujours arrivé sur le même poste? Ben, on a besoin de nous poser cette question-là. Quoi? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Il est peut-être temps de se lever notre lazy boy. Les gens disaient toujours, ils appelaient ça notre lazy boy spirituel. Il y en a qui aiment ce lazy boy-là. Peut-être temps de se lever notre lazy boy et de changer de poste. N'oublions pas que dans la vie spirituelle, si nous progressons pas, c'est que nous reculons. Il ne faut pas se compter des histoires. Le statu quo, ça n'existe pas. Puis on arrive au troisième point, c'est-à-dire que nous pouvons choisir le risque de la soumission. Verset 4. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ça, c'est la version de la colombe. L'idée qui se dégage de ce texte, c'est allons nous soumettre aux Syriens. Allons nous soumettre aux Syriens. Moi, je dis chapeau. Chapeau à ces quatre lépreux. Ils ont eu le courage de faire quelque chose. C'est vrai que les Syriens étaient des ennemis. Mais là, je vais dire quelque chose, puis là, j'ai pesé, repesé, revenu et re-revenu. Est-ce que je peux dire ça? Serge, est-ce que tu peux dire ça? Puis j'en suis, si vous avez des roches, là, asseyez-vous dessus, là. J'en suis venu à un point que j'ai dit, oui, je peux le dire. Beaucoup de chrétiens voient Dieu, c'est touché ce que je vais dire là, comme un ennemi. Beaucoup de chrétiens voient Dieu comme un ennemi. Ils ont peur de lui soumettre leur vie. Ils ont une peur, une crainte de se soumettre à Dieu. Ils ne lui font pas confiance. Ils se disent, comment Dieu va-t-il réagir à mon égard si je me soumets entièrement à lui? Comment il va réagir envers moi? Qu'est-ce qu'il va me demander si je me soumets entièrement à Dieu? Va-t-il me demander de devenir pasteur? Ah, je ne vais pas. Va-t-il me demander de vendre tous mes biens? Non, je ne veux pas me soumettre. Va-t-il me demander de laisser de côté tout ce que j'aime? J'aime ça, ce que je fais présentement. Ah oui, je suis sauvé. Oui, j'ai dit oui au Seigneur. Oui, ma conversion est authentique. Mais au fur et au là, j'ai commencé à reprendre des choses. Puis maintenant, ma soumission, elle est, j'ai une crainte. J'ai une crainte. Je sais pas si ça, si vous avez déjà pensé à ça. Mais va-t-il m'enlever tout ce que j'aime? Est-ce que je suis prêt à le laisser m'enlever tout ce que j'aime? Moi, je vais le laisser dans le placard. Demain, il va être en sûreté. Regardez Matthieu 7. J'aimerais qu'on vire à Matthieu 7. Vous savez, quand à ma conversion, le 25 février 1985, je me suis posé ces questions-là. Puis ça a duré assez, c'était assez dur dans ma tête. Les forces du mal avec l'Esprit de Dieu qui me convainquait, qui essayait de me convaincre. Serge, fais pas ça. Fais pas ça, t'es heureux comme ça. T'as tout ce que tu veux. Abandonne pas ça. Tu vas être obligé d'abandonner ça, abandonner ça. Non, Serge, fais pas ça. Puis l'Esprit de Dieu me disait, Serge, tu vas avoir la paix, la joie, le pardon de tes péchés. Tu vas avoir l'éternité avec moi dans un bonheur éternel. Abandonne. Abandonne-toi. Puis je me suis mis à genoux. Puis qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout. Tout. Je lui ai donné tout, tout, tout. Est-ce que je l'ai repris par après? Oui. Est-ce que je dois refaire la même prière puis aller m'examiner souvent? Oui. Est-ce que tu es prêt à donner ça au Seigneur, Seigneur? Un matin, je disais, oui. Hier, je disais, oui. Puis, il y a des journées, je vais être résistant un petit peu. Mais j'en reviens à dire, oui, Seigneur. Je suis prêt à te donner. Tout ce que j'ai, je suis prêt à te le donner. Peut-être que c'est pour... Ah, Matthieu 7. Qu'est-ce que j'ai dit, Matthieu 7? 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous savez, je me suis posé la question, si ça m'arrive dans la tête, ça, ces interrogations-là, là, hey, Seigneur, vas-tu me demander ça, vas-tu me demander ça, là? Mais ça vient pas de Dieu. Dites-vous que ça vient de l'adversaire, ça vient de Satan, ça, qui vous dit, tu vas tout perdre, hey, t'auras plus de jouets, t'auras plus ci. Ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur, puis nous donner ce qu'il y a de mieux. Il faut faire ce choix de se soumettre inconditionnellement à Christ et faire appel à sa force. C'est sa force qui peut agir puissamment en nous. Puis ça, là, ça va avoir des conséquences positives. Dans quelle situation sommes-nous en ce moment? Peut-être que nous ne savons pas quoi faire. On est comme ces lépreux. On a trois choix devant nous. Reculer, c'est la mort. Ne rien faire, c'est la mort. Et de l'autre côté, on risque tout. Tous ceux qui ont choisi de soumettre leur vie sans condition à Dieu, découvre que c'est le choix le plus intelligent qu'ils aient jamais fait. Vous en connaissez, j'en connais, ce sont des gens épanouis, des gens joyeux, des gens pleins de bonheur, puis, comme dirait Laurence Fortin, c'est des gens qui ont pris la bonne part. Ceux qui connaissent Laurence Fortin, il me dit tout le temps, c'est la bonne part, c'est le bon choix. Certains d'entre nous ont tellement peur des échecs qu'ils ne prennent même pas le risque de faire quelque chose dans leur vie. Jamais, jamais aucun risque. C'est vrai. C'est vrai que si nous risquons de faire quelque chose, on peut échouer. Il y a toujours un risque d'échouer. Mais il vaut mieux courir le risque de faire quelque chose pour Dieu en échouant que de ne jamais rien essayer. Vous êtes d'accord avec ça? La vraie foi comporte toujours des risques. Ces quatre lépreux risquaient leur vie en entrant dans le camp des Syriens pour se livrer, pour se soumettre. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils finirent par goûter à l'abondance sans avoir à combattre. Ils ont goûté à l'abondance. La foi, c'est parvenir à la limite de ce que nous pouvons voir et toucher. C'est ça, la foi. Parvenir à la limite de ce que je peux voir. Maintenant, c'est noir, je ne peux plus voir, je ne peux plus toucher. C'est de parvenir à cette limite-là. Et là, c'est de faire un pas de plus. Juste un de plus. C'est comme sauter en parachute. C'est de faire confiance à Dieu, faire confiance à sa puissance qui va nous supporter. Deuxième grand principe pour être béni de Dieu, c'est une soumission sans condition. C'est-à-dire être disposé à obéir à Dieu. Il y a trois leçons importantes à tirer de cette, à apprendre de ces lépreux. Vous savez, Dieu n'exige de nous qu'une seule chose. Dieu n'exige de moi qu'une seule chose. C'est mon tout. C'est pas compliqué pour lui. C'est mon tout. Puis nos quatre personnages sont un exemple de la soumission qui mène à la victoire. Quand ils ont voulu se soumettre, quand ils se sont soumis, leur vie a complètement changé. Dieu ne veut pas seulement notre âme ou nos émotions. Il veut tout de moi. Tout de moi. Romains 12:1, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous le lire dans la parole vivante. Toutes des versets qu'on connaît. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté de Dieu, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Quand il s'agit de notre engagement, Dieu veut tout ou rien. Vous savez, ce principe de tout ou rien peut être démontré, beaucoup de jeunes ici, puis il y a des gens assez en forme, peut être démontré par les muscles de notre corps. Il y a certains muscles qu'on peut contracter partiellement. Voulez-vous faire l'essai avec moi? Vos biceps? Baissez vos manches, les hommes, là, pas trop. On peut quoi le contracter légèrement? Puis on peut le contracter quoi? Modérément. Puis on peut le contracter totalement. Ça fait mal, des fois. ça fait mal. Bien, notre cœur, lui, il est contraire aux muscles. Il se contracte involontairement, lui. Et à chaque fois qu'il se contracte, lui, il se contracte totalement. Et chaque fois qu'il se contracte totalement, c'est un muscle qu'on appelle tout ou rien. Est-ce que vous pouvez faire contracter votre muscle? Non, c'est lui qui fait la job. C'est un muscle tout ou rien. S'il donne tout, là, je vais regarder, j'ai des compagnons, là, que peut-être ils ont des problèmes, là. S'il donne tout, là, ben, vous allez vivre. Merveilleux, hein? Mais s'il se contracte pas totalement, il y a des problèmes. Pensez lesquels. Dieu dit dans sa parole que nous devons le chercher de tout notre cœur, ce qui signifie que nous devons lui soumettre tout. Nous devons lui donner tout. Oui? Il est le Seigneur de tout ou bien il n'est pas le Seigneur du tout. Quand nous sommes soumis à Dieu, il prend soin de nous. La meilleure décision que ces lépreux ont prise a été de se soumettre. Regardez le verset 9. Il nous en reste pas long, soyez patients. Verset 9, il dit, verset 8, « Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. » Hey, ils ont pu profiter du butin, de la bataille, sans livrer aucune bataille. Imaginez-vous la joie de ces gens-là. Ces gens-là qui étaient pris entre le marteau et l'étline, les voilà maintenant riches, rassasiés, de la nourriture, des vêtements. Vous savez, s'ils avaient connu ce cantique-là, les autres-là, ils l'avaient sûrement chanté. Mon Dieu possède toutes choses. Hein? Il aurait chanté ça, il aurait été heureux, il était heureux, il était dans la joie. Quand on se soumet à Dieu, là, bien, il pourvoit à tous nos besoins. Et même, il fait des extras. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous en parler, il a accompli des miracles dans vos vies aussi. Il fait des extras quand on se confie totalement à lui. Quand nous expérimentons l'amour de Dieu, ben, on peut pas rester silencieux non plus. Les lépreux étaient heureux de jouir de tout cette abondance, mais au verset 9, il y a un bug. Il y a un petit bug, là, au verset 9. Ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Vous savez, on est comme eux. On a une bonne nouvelle à partager. Nous aussi, nous avons une merveilleuse nouvelle. Romains 10, 17, qu'est-ce qu'il dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Puis en attendant, eux qui sont partis avec cette bonne nouvelle-là, puis qu'est-ce qui est arrivé au peuple? Le peuple a couru. Il a couru pour venir, pour se réjouir eux aussi. Et ils ont pu profiter de cette abondance. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Vous avez goûté que le Seigneur est bon? On a fait l'expérience de sa grâce. Nous sommes donc des témoins vivants. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Je ne peux pas garder cette bonne nouvelle-là pour nous. Nous étions affamés, comme ces lépreux. Nous étions assoiffés. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous a sauvés. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je vais terminer avec une histoire. Stephen Alford, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, peut-être René le connaît, lui, est né en Angola, ses parents étaient missionnaires. Ses parents, ils avaient reçu une éducation chrétienne très bien. Ses parents, c'était des êtres extraordinaires. Puis lui, il a grandi avec, il avait reçu une éducation classique. Puis là, il a prouvé qu'il était un des meilleurs étudiants. Mais très jeune, il était déterminé à ne pas suivre les traces de son père. Son rêve à lui, c'était de devenir un ingénieur, puis de devenir riche. Il est allé à l'université, renommé en Angleterre, et a prouvé être un brillant étudiant recevant les meilleures notes. Il avait du génie pour la mécanique et sa thèse du collège était sur la carburation. Il a conçu et construit un nouveau et puissant carburateur de moto. Il a participé à des courses de moto pour démontrer l'efficacité de son invention. Puis une nuit, en rentrant après ses courses, il pleuvait, mauvaise température, puis là, il a fait une chute. Puis là, il a passé pratiquement toute la nuit là avant d'être trouvé. Quand ils l'ont trouvé, il a été diagnostiqué qu'il avait une pneumonie sévère. Les docteurs lui ont dit qu'il avait pas plus que 2 semaines à vivre. Tout s'est effondré autour de ce jeune homme. Tout s'est effondré alentour de lui. Il était jeune, puis là, il ne voyait pas d'ouverture face à ça. Mais son père, qui était en Outre-mer, un autre continent, lui avait écrit une lettre. Mais cette lettre-là, il l'a reçue juste après son accident. Il était sur son lit d'hôpital. Puis, savez-vous ce que la lettre contenait? Des mots qui allaient changer sa vie. Son père avait écrit, « Seulement une vie, bientôt elle passera, ce qui est fait pour Christ demeurera. Seulement une vie, bientôt elle passera, ce qui est fait pour Christ demeurera. » Solitaire, dans sa chambre d'hôtel, dans sa chambre d'hôpital, Stéphane s'est rendu compte qu'il s'était sauvé loin de la volonté de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas être soumis à Dieu, qu'il n'était pas disposé à lui obéir. Avec la force qui lui restait, il s'est agenouillé à côté de son lit d'hôpital et il a prié une prière qui a changé sa vie. Il a dit, Seigneur, n'importe quand. Seigneur, n'importe où. Seigneur, quel que soit le prix, amen. Seigneur, n'importe quand, n'importe où, quel que soit le prix, amen. Il n'est pas mort. Stephen Holford n'est pas mort. Pendant les 60 années qui ont suivi, il a parcouru le monde prêchant l'Évangile et encourageant les pasteurs à prêcher la bonne nouvelle. À 86 ans, il prêchait encore avec énergie, avec vigueur. En août 2004, il a eu une attaque et il est parti rejoindre son Sauveur. Il a renoncé à tout pour Jésus. Seulement une vie, bientôt elle passera. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il expérimente dans la présence du Seigneur leur dernier bout de phrase, « Ce qui est fait pour Christ demeurera. » Si nous voulons être rassasiés spirituellement et jouir des bienfaits venant de Dieu, une seule chose à faire, pour moi et pour vous, il faut se livrer, il faut livrer notre volonté à Dieu, sans condition et sans attendre. Jean 3, 30. Qu'est-ce que Jean 3, 30 dit? On va finir par ça. Vous voulez le prendre? Jean 3, 30. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Prions. Père, merci encore. Merci d'être le souverain maître. Merci d'être souverain sur tout. Seigneur, j'aimerais te faire cette prière ce matin. Ma vie t'appartient, tout simplement à te dire, fais-en ce qu'il te plaira pour la gloire de ton nom, pour ta gloire à toi. Au nom de Christ. Amen.